France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Voici Interactive 01 45 24 7000, vos questions pour nos invités, Virginie Duval, la présidente de l'Union syndicale des magistrats, et Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, et on parle bien sûr de la lutte contre le terrorisme en France et à l'étranger. Premier appel, c'est Philippe qui se trouve à Niort. Bonjour Philippe.
Bonjour.
On vous écoute, nos invités vous écoutent.
Vous avez rappelé de la personne qui a pris 2 ans de prison la semaine dernière pour condamnation, 2 ans ferme, pour consultation de sites, on va dire djihadistes, je pense. La presse, j'ai lu cette affaire hier dans la presse, ajoute qu'il y avait 30 000 euros d'amende. Mmh. Donc je voulais vraiment comprendre la logique de cette amende supplémentaire, je n'ai pas compris. Déjà 2 ans de prison, franchement, j'ai trouvé ça sévère. Mais en plus, 30 000 euros d'amende à une personne qui semble en plus assez jeune, pas trop insérée, je comprends pas. Donc je voulais peut-être des explications sur...
Vous êtes surpris par la sévérité des magistrats de Chartres ?
Oui.
Mmh. Alors sur ce point, sur cette surprise, Virginie Duval.
La réponse est compliquée parce que on n'a pas accès au dossier et il faut savoir que quand des magistrats prennent des décisions, c'est en fonction des faits, en fonction de la personnalité de l'auteur. S'il a été condamné pour consultation de sites djihadistes régulières et qu'il a été condamné à 2 ans et 30 000 euros d'amende, c'est que on avait un profil particulièrement inquiétant. Selon les magistrats, c'est toujours compliqué pour les magistrats parce que on a eu les mêmes réactions après Charlie pour toutes les condamnations en matière d'apologie du terrorisme. On avait dit mais les magistrats sont trop sévères. Donc on parlait il y a 15 minutes du fait que les magistrats peut-être avaient libéré trop facilement entre guillemets.
Parfois on parle du laxisme des magistrats.
Le laxisme est parfois invoqué. Trop sévère. J'aurais tendance à dire que les magistrats font ce qu'ils peuvent avec les éléments qu'on leur donne et en âme et conscience. C'est-à-dire que personne n'a intérêt à condamner trop sévèrement quelqu'un ou à libérer quelqu'un qui ne doit pas être libéré.
Mais alors ça montre bien qu'il y a quand même une sorte de surenchère sécuritaire en ce moment du côté de la classe politique, parce que souvent on nous dit il faut réprimer ceux qui consultent des sites djihadistes, on ne le fait pas suffisamment. La loi le permet, on le voit bien là, une peine sévère a été prononcée, 2 ans ferme pour avoir consulté des sites, et on sait que la radicalisation se fait souvent, essentiellement d'ailleurs, sur Internet. Sur ce point, Jean-Marc Bailleul.
Non, moi je suis absolument pas choqué par cette condamnation et par les autres d'ailleurs. Ça commence par là. Ça ne va peut-être pas plaire à votre auditeur, mais je pense que il faut condamner sévèrement toute apologie, mais aussi toute mise en cause des institutions de la République, des représentants de l'État dans l'exercice de leurs fonctions, quelle que soit leur mission, que ce soit dans les hôpitaux, dans les palais de justice, dans les commissariats. Tous ceux qui représentent l'État doivent être respectés, et ceux qui le critiquent doivent être condamnés. Je crois que le respect de la République commence par là.
Irène, à Paris, écoute France Inter et souhaite participer à notre émission. Bonjour Irène.
Bonjour.
Allez-y, on vous écoute.
Alors, comment fait-il qu'on puisse bloquer les snuff movies qui se montrent en direct sur Internet, où on voit des exécutions en direct, alors que des sites pédophiles le sont? J'ai entendu dire qu'il y avait plus d'un million de personnes qui ont été voir ces exécutions en direct. Mmh. Alors, il y a quand même une possibilité d'arrêter ce genre de vision.
Oui, vous êtes un petit peu étonné qu'on puisse bloquer des sites pédophiles, et puis voilà, et qu'on puisse voir... Voilà. Qui veut répondre? À ce propos, Virginie Duval.
Effectivement, c'est incompréhensible pour nous aussi, c'est-à-dire que ça a été le cas aussi après le Bataclan, où des images de l'intérieur du Bataclan ont été diffusées pendant plusieurs heures, alors que sur Twitter ou Facebook, dès qu'une poitrine, même de manière artistique, est diffusée, elle doit être retirée. Comme il était dit tout à l'heure, il y a une logique à trouver de la part des grands Google, Apple, tout ça.
Stéphane à Paris, bonjour Stéphane.
Bonjour, je vous appelle, moi ça fait 20 ans que je suis policier en police judiciaire et on constate aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de policiers qui sont motivés par par la police judiciaire et donc par la procédure pénale parce qu'elle se complexifie. Et ma question à vos auditeurs, c'est à quand une vraie réforme, une vraie simplification de la procédure pénale qui permettrait certainement une meilleure efficacité et peut-être une remotivation de certains policiers.
Mais en quoi, selon vous, une simplification de la procédure pénale permettrait d'être plus efficace, notamment dans la lutte contre le terrorisme? C'est notre sujet ce matin.
Notamment en simplifiant le travail des policiers, en allégeant certaines tâches indues et certains actes de procédure qui leur font perdre clairement du temps et qui permettraient d'être plus efficaces à la police dans la procédure pénale.
Jean-Marc Bailleul.
Écoutez, je peux être que d'accord. C'est une revendication que nous avons depuis plusieurs années et bien avant les actes terroristes. C'est-à-dire que on a effectivement complexifié, on a un code de procédure pénale qui date de Napoléon, pour schématiser, qu'on a complexifié réforme après réforme, j'allais dire en commençant par celle de 95, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des enquêteurs qui passent beaucoup de temps à écrire, puisque la procédure française, on écrit tout ce qu'on fait, tout. Quasiment minute par minute. Une procédure comme le Bataclan, on doit être à plus de 16 000 procès-verbaux. On n'a plus de candidats, et votre auditeur a raison, pour les services d'élite de la police judiciaire, qui sont par exemple la sous-direction de l'antiterrorisme, qui manque cruellement d'effectifs. Et je crois que là aussi, il y a peut-être une réforme à faire de la procédure pénale, parce que pour les juges, c'est beaucoup de lecture aussi. Les juges anglo-saxons, c'est une procédure oralisée, ne sont pas embêtés par toute cette paperasse qui, en plus, crée le dos, crée une possibilité pour la défense de trouver des vices de forme que la procédure anglo-saxonne n'a pas. Elle a d'autres contraintes. Mais je pense aussi qu'il faut aussi revoir notre organisation de notre police judiciaire, puisqu'on voit que sur les affaires de terrorisme, par exemple, on a des co-saisines qui se multiplient, avec des services multiples qui travaillent sur la même matière. Il serait peut-être temps de réfléchir à mutualiser tout ça pour être plus efficace.
Virginie Duval.
Oui, on est totalement d'accord. Ce sont des demandes que nous avons portées ensemble, magistrats et policiers. Il faut concilier à la fois l'opportunité de l'enquête et l'efficacité de l'enquête et les droits de la défense. Mais on arrive à un point où finalement les droits de la défense et la paperasse peut-être vont au détriment de l'enquête. Exemple. Bataclan, 3000 victimes, dès qu'un magistrat instructeur fait un acte et qu'il doit faire un avis, ce qu'on appelle un avis à victime, c'est 3000 courriers qui doivent partir. Est-ce que on a besoin de faire des courriers? Est-ce qu'on peut pas penser à un autre moyen d'aviser les victimes?
Des questions sur Internet, Philippe, à Annecy. Quel intérêt y a-t-il à condamner une personne à de la prison? Parce qu'en prison, il est plausible que cette personne va se radicaliser encore plus. Les détenus qui se radicalisent en prison, c'est un dossier qu'on évoque souvent. Jean-Marc Bailleul.
Voilà, là encore, je pense qu'il faut un signe fort pour condamner l'apologisme et il faut le faire savoir. Maintenant, il y a l'accompagnement. Il faut que les services judiciaires aient les moyens derrière de pouvoir suivre ces gens-là, pour éviter effectivement qu'ils passent à la radicalisation, on va dire plus poussée. Donc c'est essentiel. On en est toujours à des questions de moyens. On peut pas lutter contre ce fléau si on donne pas à l'ensemble des acteurs les moyens de lutter contre ça. C'est pas simplement le prisme sécuritaire qui va le résoudre.
Virginie Duval, est-ce que les prisons, c'est un lieu de radicalisation?
C'est un lieu comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire que l'administration pénitentiaire a pris la mesure de cette radicalisation en prison. Elle prend des mesures aussi pour lutter contre. La difficulté, c'est que de toute façon, en ce moment, quoi qu'on fasse, on est critiqué. C'est-à-dire que on crée des unités dédiées. C'était Madame Taubira qui avait eu cette idée. On crée des unités dédiées. Elle a été critiquée. Et maintenant, on entend aussi que quelqu'un qui n'est pas dans une unité dédiée, c'est pas normal non plus. Donc laissons l'administration pénitentiaire gérer.
Mais que pensez-vous de ces unités de déradicalisation qui ont été créées dans les prisons françaises? Il y en a 5, il y en aura peut-être une vingtaine dans quelques mois. C'est un bon système, efficace?
Il y a 5 unités dédiées, 2 pour évaluer et, les 3 autres pour traiter, entre guillemets. Mais ce n'est pas les plus radicalisés. C'est ceux qui sont au début, entre guillemets, de la radicalisation. Oui. Et on essaye d'étendre ça à 27 maisons d'arrêt.
Vous approuvez ce système?
En tout cas, il faut faire quelque chose. Oui. Donc, on n'a pas assez de recul pour avoir la notion d'efficacité, puisque je crois qu'il y a moins d'une centaine de personnes qui sont passées dans ces unités. Donc, on peut pas vraiment savoir avec le recul, mais si on fait rien, c'est pas mieux non plus.
Adeline Hazan, contrôleur général des prisons, disait l'autre jour que le personnel en charge de cette déradicalisation n'était pas vraiment compétent pour faire cela.
Oui, mais encore faut-il qu'on donne les moyens à l'administration pénitentiaire de les former. Mmh. L'administration pénitentiaire a de grosses difficultés pour recruter, compte tenu aussi des conditions de détention et du coup de travail extrêmement difficile actuellement en prison. Mmh. Donc c'est global, c'est globalement qu'il faut travailler. Il faut une amélioration des conditions aussi en détention.
Jean-Philippe Deniaud, chef du service police-justice de la rédaction de France Inter.
Ouais, sur les moyens, on n'arrête pas de tourner autour. Concrètement, combien faudrait-il de magistrats en plus? Combien faudrait-il de policiers en plus pour assurer, j'allais dire convenablement, les missions actuelles de sécurité et de justice?
Ouais. Oui. Pour la police, moi je vais être assez pragmatique.
Jean-Marc Bayon.
Bon, on a perdu, police et gendarmerie, 13 000 effectifs sur les années 2007-2012. Les effectifs sont petit à petit remis à flot. Je ne crois pas que ce soit simplement un problème d'effectifs. Dans nos propositions, notamment de simplification de la procédure pénale, d'oralisation, si on gagnait tout ce temps-là en paperasserie très chronophage, ça dégagerait du temps pour les enquêteurs pour être sur le terrain.
Mais les personnels sont fatigués en ce moment.
Ah ben ils sont à bout. C'est-à-dire, nous, on a des collègues dans les services antiterroristes qui sont des passionnés, qui font leur job, mais comme ils sont en sous-effectif et que les affaires se succèdent, qu'il y a des co-saisines à n'en plus finir, donc on se pose même des questions sur cette problématique, ben effectivement, ils sont un petit peu à bout. Donc ils sont obligés même de délaisser des commissions rogatoires d'actes terroristes importants pour lesquels les auteurs ont été appréhendés ou ont été tués, parce qu'ils n'ont plus le temps. Donc on priorise les urgences. Et je crois que c'est la même chose chez nos amis magistrats.
C'est la course à la montre. Je voudrais juste quand même préciser qu'il y a 10 magistrats du parquet, 11 magistrats du parquet qui traitent actuellement les affaires, et 9 et bientôt 10 juges d'instruction en France seulement qui traitent toutes ces affaires. Il y a presque entre 250 et 300 instructions en cours. Donc on voit bien, c'est une masse incommensurable. Donc il faut augmenter le nombre de magistrats, c'est sûr. Et pas seulement, puisqu'on a besoin aussi sur le reste de la France. On est aujourd'hui 200 magistrats de moins qu'en 2009. Oui. Donc il faut aussi avoir conscience de ça. Les magistrats ont besoin de renforts et d'assistants spécialisés, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. On a besoin d'assistants spécialisés en matière informatique, en matière de connaissance de l'islam et de l'islam radical. On parlait de formation tout à l'heure, mais on a besoin d'experts pour nous aider.
Sophie, en Normandie. Bonjour Sophie, bienvenue sur l'antenne.
Bonjour, merci. Ma question est la suivante. Pourquoi les juges de différents pays du monde ne mutualiseraient-ils pas leurs moyens et lanceraient une conférence de presse sur le modèle des juges qui ont alerté sur la gravité de la fraude fiscale à une époque moi je me souviens très bien de cette conférence de presse.
La coopération entre magistrats, entre police, coopération internationale sur ce point qui revient régulièrement. Virginie Duval.
La coopération, elle existe, elle se développe, mais ce ne sont pas les magistrats tout seuls qui peuvent le faire. Ça dépend des États, ça dépend aussi de la coopération européenne. On sait aussi que le fichier des transports qui est voulu par notre pays peine à se mettre en place. Donc, c'est pas les magistrats, vous les mettez ensemble, ils sont tout à fait d'accord pour travailler ensemble, sauf qu'après, il y a les policiers aussi d'ailleurs, après,
il y a des lourdeurs.
Il y a les lourdeurs des pays qui nous dépassent.
Jean-Marc Bailleul.
Oh oui, je pense que la coopération internationale des polices fonctionne. Nous, ce qu'on a pu, et ce que l'affaire du Bataclan a mis en exergue, c'est là encore un problème d'interconnexion des fichiers des différents pays. Je crois que là encore, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que 99,99% des citoyens d'Europe n'ont rien à craindre d'avoir une restriction des libertés par le biais de connexion de ce fichier, voire de création de fichiers nouveaux. Je crois que c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire que faut savoir à qui on s'adresse. Eux n'ont aucun scrupule, ces terroristes-là. Soit en agissant seul, soit en agissant à plusieurs, de n'importe quel pays, ils peuvent s'organiser. Donc si on n'est pas capable d'interconnecter ces fichiers-là, il ne faut pas s'étonner que ce qui s'est passé en Belgique et avec les retentissements en France puisse se reproduire demain.
Virginie Duval, présidente de l'Union syndicale des magistrats, et Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, merci d'avoir accepté l'invitation de France Inter.